1 Culture Média.
9h-11h,
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, notre invité, l'humoriste, désormais comédien, Gaspard Proust. On parle de cette pièce hors norme, demain, La Revanche. Bonjour Stéphanie Loire.
Salut Philou.
Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et bonjour Jean-Luc Lemoine.
Salut Fifi.
Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, vous êtes intéressé à une saga.
Oui Philippe, parce que j'avais vu tous les épisodes précédents. J'avais adoré Cauchemar à la pompe à essence, Cauchemar sur la facture EDF et Cauchemar en moutarde. Donc pour continuer ma série de cauchemars, j'ai regardé Cauchemar en cuisine. L'émission qui devrait normalement redonner un peu le moral aux Français avec de la bonne bouffe.
Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout.
Ok, ah, bon bah c'est raté. Ouais. Là on allait chez Jérôme qui avait embauché sa sœur à l'ouverture de son resto. Mais sa sœur l'avait assez vite planté. On se demande pourquoi. Parce que son parcours professionnel indiquait pourtant qu'elle avait toutes les qualités pour être une bonne serveuse.
J'ai ouvert tout seul et j'ai embauché ma sœur en tant que serveuse. Par la suite, elle est décidée de continuer son chemin dans son métier d'origine qui était les conducteurs de car.
c'est dommage, ça partait bien. Donc Jérôme a dû remplacer sa sœur et a engagé Steve, un garçon qui parle avec passion de son métier.
C'est un métier qui me passionne et j'aime satisfaire le client qui repart avec le sœur. Aujourd'hui, ça me passionne, mais un peu moins.
Il a l'air trop motivé. Mais... Et Jérôme, le chef et patron, ne comprenait pas pourquoi il y avait de moins en moins de clients dans son resto. Enfin, si, il avait peut-être une idée.
Ça peut venir de la part de Steve. J'ai déjà pensé que voilà, il y a des clients qui ne sont peut-être plus revenus à cause de son comportement. Il a certaines lacunes.
J'ai eu l'impression que vous entendre parler de vos chroniqueurs après des audiences radio, Philippe. Voilà. Nous, on ne se permettra jamais. On sera toujours unis et soudés autour de vous, notre grand leader et chef éternel, Kim Jong-fil. Donc, Philippe Etchebest avait décidé de passer commande auprès de Steve. Il voulait des bulots mayonnaise qui étaient inscrits sur la carte, mais il n'y en avait pas.
Vous en avez habituellement?
Alors avant, on en avait, maintenant, on n'en a plus. Et pourquoi vous le gardez à la carte? Voulez-vous un petit apéritif d'abord pour commencer?
Ça s'appelle une diversion. Voilà. Ce qui est bien avec Philippe Etchebest, c'est que quand il te pose une question, t'as l'impression d'être en garde à vue. Tu sais qu'à un moment, il va te faire craquer. Mais le plus beau, c'est quand il va vouloir commander la rillette aux deux saumons.
Bah, je vais goûter la rillette de saumon, j'ai goûté ça là.
Aux deux saumons.
Aux deux saumons, pourquoi aux deux saumons?
Alors, je sais que je lui en mets un seul, après, oh, bah, c'est peut-être lui comme il l'a écrit, rillette, au lieu de dire deux, D-E.
Voilà. Pour Steve, le problème, c'est pas que son patron est mauvais en cuisine, c'est qu'il est nul en orthographe. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Steve, lui, il a une mémoire de poisson rouge. Car chef Etchebest va l'envoyer en cuisine pour comprendre le pourquoi des deux saumons.
Pourquoi les rillettes aux deux saumons?
Frais et fumé.
Ok. Donc alors, pourquoi les deux rillettes aux deux saumons?
Non, c'est la rillette aux deux saumons. Il n'y a qu'une rillette, mais il y a deux saumons.
Parce qu'il y a fumé et il y a du frais.
Voilà, il y a du fumier dans le saumon. Hein. Ça fait vraiment envie. Ensuite, Philippe Etchebest a commandé un tigre qui pleure et il a demandé à Steve ce qu'il y avait dans la sauce. Donc Steve a demandé en cuisine.
La sauce, c'est de la sauce à base de sauce huître, de cognac, de sauce soja.
D'accord. Enfin, c'est une sauce à base de sauce huître, sauce soja. Il y a autre chose. Bref.
Là, on est clairement sur un petit début d'Alzheimer quand même. Hein. Et en cuisine, c'était pas le gros moral non plus.
C'est pas normal que des clients s'en aillent sans avoir mangé. C'est un échec. Hey, je m'en sens pas bien.
Ça c'est sûr, hein. Si les gens s'en vont sans manger, c'est plus un restaurant, c'est une salle d'attente. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle vous fait moins rire cette rubrique, Philippe.
C'est pas vrai, je venais de rire à l'instant.
Non, dites pas le contraire, même non. Philippe Etchebest l'a remarqué.
Décidément, Philippe ne fait aucun effort. On dirait un bloc de marbre. Il est froid, il est dur, replié sur lui-même. Bref, un comportement vraiment insupportable.
Si Philippe Etchebest le dit. Alors j'accélère. Au final, le resto a été relancé dans la bonne humeur.
On s'abîme, une cake couverte, une salade de gésine, une rillette, un croustillant, un camembert, une crevette frite, un tartare, un tigre, une autre côte.
Doucement, tu crois que j'imprime là, à cette vitesse?
Bon, le resto a été sauvé. Encore une mission réussie pour Philippe Etchebest.
Mais c'est dingue. Mais vous avez vu toute l'émission. Les gens, ils viennent au restaurant, ils partent sans avoir mangé.
Non, bah c'est parce que le service était trop long. Donc ils avaient marre d'attendre, ils sont repartis.
Pourtant, il mettait tout de son côté. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je vous rappelle, on vous retrouve tout à l'heure dans Historiquement Vôtre, de 16h à 18h. avec Stéphane Berg. Je vais faire une blague sur le resto. Je me suis dit, je vais faire une petite vanne. Je me suis dit, je vais la rater. Et pas de chute après la chute, on passe pas. Après, Jean-Luc Lemoine, on essaie pas de faire des vannes. On demande plutôt à Lord Autriche, à Stéphanie Loire, le programme des indispensables du matin. Je sais que c'est de la musique et je sais que ça va plaire à Gaspard Proust qui adore le classique. De quoi vous allez parler, Laure?
Du pianiste Alexandre Tarot, mondialement connu, qui a troqué les concertos de Chopin et de Rachmaninov pour les musiques de films. Et il sort un disque avec des musiques de films très intéressantes. De voir comment un artiste classique joue de la musique de film.
Et vous, Stéphanie?
Je vais vous faire découvrir, parce que visiblement vous ne connaissez pas, un duo de guitariste-chanteuse blues qui s'appelle Larkin Poe.
Non, je ne connaissais pas.
Et puis aussi un peu de punk, un peu d'afrobeat, une chanteuse, une actrice britannique qui chante en français.
Elle prend la confiance, Stéphanie Loire. Ouais,
mais c'est vrai que vous aimez l'afrobeat, vous.
Il est très afrobeat.
Ouais. J'adore. Oh là là, ce batteur mort dont le nom m'échappe à l'instant. Tony Allen, immense personnage. Dans un instant, Gaspard Proust, on parle de la pièce Demain, la revanche. Mais d'abord, musique, c'est le nouveau single de Christophe Willem, Je tomberai pas, sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Gaspard Proust.
Bonjour.
Vous êtes comédien avec deux seuls en scène qui ont vu 620 000 spectateurs en 12 ans. Vous avez rempli l'Olympia 10 fois de suite. Également chroniqueur télé chez Thierry Ardisson dans Salut les Terriens. Et puis depuis la rentrée, on peut vous entendre tous les mercredis. Tiens, on est mercredi à 8h37 dans la matinale d'Europe 1 et on peut vous lire le dimanche dans le JDD. Votre actualité, c'est sur les planches, mais vous n'êtes plus tout seul. C'est Demain la revanche, pièce de Sébastien Thierry avec Jean-Luc Moreau et Brigitte Catillon. C'est au Théâtre Antoine. C'est vous qui êtes dessiné sur l'affiche. Le titre est mystérieux. Vos intentions également sont mystérieuses. Ça démarre comme ça. Il est 5h du matin. Vous débarquez chez vos parents, alors que vous n'habitez plus chez eux depuis des années, 15 ans au moins. Vous êtes complètement trempé, dégoulinant. Vous portez un sac à dos dont il va s'avérer qu'il était empli de pierres. Et je vous pose la question que ce que vous pose et que se posent vos parents. Qu'est-ce que vous foutez là?
Qu'est-ce que je fais là? Ça, c'est les spectateurs qui vont le découvrir. Le problème, c'est que c'est un peu une forme de pièce enquête. Comédie, enquête, tragique, tout ce qu'on voudra. Je ne sais pas les termes que vous utilisez, c'est une comédie quand même à la base. Donc on ne peut pas trop dévoiler les choses. Ce n'est pas pour faire du pitching débile, mais c'est juste un fait. Je dis je viens parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. À ce moment-là, ça n'a plus aucun intérêt.
On est bien d'accord. Mais comme je voulais...
C'est-à-dire qu'on voit la pièce trop vite.
Ce n'était pas à moi de le dire, c'était plutôt à vous. En gros, Mathieu, il se croit revenu à la vie de son année du bac. Il a oublié qu'il est marié avec Vanessa, qu'il occupe un poste de logisticien, qu'il habite à la Garenne-Colombes. Il y a quelque chose qui m'a fait marrer. Quand on lui raconte sa vie réelle, il trouve que c'est l'horreur. Et je pense aux gens qui viennent voir la pièce et qui travaillent à la SNCF ou qui habitent à la Garenne-Colombes et dont on leur dit qu'ils ont une vie de merde.
Oui, il y a eux et puis il y a tous les autres, tout simplement ceux qui ont des enfants qui leur en veulent, les parents qui ne sont pas contents de leurs enfants. Donc je pense qu'il y a beaucoup de monde que ça pourra énerver. Les gens ressortent, ils ont ri et à la fois ils se grattent la tête en se disant mes parents sont passés voir la pièce. Il y a eu un son de cloche très différent. Mon père s'est demandé, mais ça me fait poser quand même des questions et tout. Et ma mère était ravie. Ah, c'était super, etc. Parce que la mère, en fait, a le beau rôle dans la pièce. Ouais. Donc elle était. Pour elle, il n'y avait rien de très dérangeant.
Mais oui, parce qu'on est un peu chez Oedipe. Vous voulez donner, en quelque sorte, vous voulez tuer le père, et la maman trouve que vous avez toujours raison.
Ah oui, bah ma mère est de mon côté dans cette pièce, ça c'est sûr.
Ouais, mais votre mère en vrai, votre mère en personnage. Dans la pièce, les parents finissent par comprendre que votre personnage fait un ictus amnésique. Qu'est-ce que c'est un ictus amnésique? Ça existe pour de vrai.
Ça existe pour de vrai? Ah, je ne me suis pas renseigné, oui, mais c'est une espèce de... espèce de panne temporaire. Ah non, moi je lis le texte, je fais le truc, je vois un peu l'idée, mais je ne suis pas allé fouiller dans un dico. Je me dis voilà, c'est une espèce d'amnésie temporaire. D'ailleurs, ma mère dans la pièce me l'explique à un moment, c'est ce qu'elle dit. Oui, c'est une panne temporaire, mais ça va revenir, t'inquiète pas. Un copain, un médecin nous a dit que. Et moi je fais ah bon?
Ouais.
Mais vraiment? Vous êtes sûr? Comment est-ce possible? Ah, voilà.
C'est la méthode Palo Alto. Je ne sais pas si vous connaissez l'école de Palo Alto, qui est une espèce d'école alternative.
À quel niveau Palo Alto sur les iPhones sur,
Non, c'était une école alternative de psychiatrie dans les années 70, créée par Paul Vaslavik. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette école-là, c'est qu'il disait qu'il faut accompagner la personne dans son délire, aller dans son sens, d'abord éviter l'affrontement. Et du coup, il y a des passages très très drôles, puisque du coup, votre mère devient d'accord avec vous et pas d'accord avec le père en lui expliquant toutes sortes de méfaits qu'il aurait commis.
Bah, c'est-à-dire qu'il voit bien qu'il y a un problème, ils rentrent dans mon jeu, ils se mettent à me soutenir dans mon délire, effectivement. Enfin, ma mère plus que mon père. Mon père, il voit... il n'est pas tout à fait d'accord, surtout quand il voit la tournure que ça prend à la fin.
Évidemment, on ne va pas raconter la fin. Je vais citer Le Figaro, c'était le 12 novembre, qui a été enchanté par la pièce et par votre prestation. Le titre, Gaspard Proust passe brillamment à l'acte, écrit Anthony Palou, qui ajoute, disons-le tout net, la plume détergente de Sébastien Thierry va bien au teint du satiriste acide. Sébastien Thierry a écrit cette pièce en pensant à vous. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la pièce? Vous auriez pu dire non. Qu'est-ce qui a fait que vous allez dire oui? Parce que vous êtes extrêmement sollicité.
L'envie de faire quelque chose que j'avais pas fait, et quand on a l'envie de faire quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est aussi de, il faut que ça vous parle un minimum. Et là, ça s'est présenté à un bon moment aussi où je sortais du seul en scène et j'avais envie de me changer les idées, parce que c'est un truc qui est important pour moi pour retrouver le goût et l'envie de revenir peut-être à une espèce de solitude scénique ou l'envie de dire autre chose. Et dans ce format-là, c'était pas une pièce avec trop de personnages. Ça m'a parlé. Je me suis même dit, ah, j'aurais bien aimé écrire sur ce thème-là. Bon, on me propose ça comme ça. Je connaissais pas vraiment Sébastien Thierry, mais je sais que ses pièces avaient du succès, que c'était un... Ça m'a parlé. Et lui, il m'a appelé en me disant « Ah bah oui, j'ai écrit une pièce en pensant à toi. » Alors je me méfie toujours quand on me dit ça, parce qu'après, dans 90% des cas, je me rends compte que les gens ne se savent pas, ne comprennent pas très bien. Et là, pour le coup, il y avait une vraie... familiarité. Je me suis dit « Tiens, allez, essayons. » C'est un luxe, hein. Dire, allez, pourquoi pas? Après tout, qu'est-ce qu'il y a à perdre?
Il y a à perdre de se rater, de perdre du temps, de faire que la salle est vide.
Perdre du temps, peut-être que la salle soit vide, mais on apprend. C'est pas un lieu commun de le dire, mais oui, c'est apprendre des choses nouvelles et puis peut-être y retourner ou pas.
Vous avez dit une phrase assez extraordinaire, c'était dans le Figaro aussi, mais pas le même jour. Si ça ne fonctionne pas, cela voudra dire que le théâtre, c'est pas pour moi.
Oui.
Ça fonctionne?
Ça fonctionne, oui, ça a plutôt l'air... disons que les gens me trouvent crédible dans le rôle. Mon seul sujet, en fait, c'est ça. Est-ce qu'on y croit? Et les gens y croient. Donc pour moi, le job, il est fait.
On va parler de musique avec vous. Je sais que vous êtes connaisseur de musique classique, Gaspard Proust. C'est Laure d'Autriche qui nous rejoint. À tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Gaspard Proust, demain La Revanche, il est comédien, c'est pas un seul en scène, il est comédien sur la scène du théâtre Antoine. Vous dites que vous auriez pu être compositeur, vous êtes fan de musique classique, c'est bien ça?
J'aurais aimé, j'aurais pu, non, ça c'était un peu, oui j'aurais pu, mais finalement j'ai fait autre chose, non. J'aurais bien aimé, oui, être plus dans la musique, mais bon, ça s'est pas fait, c'est qu'il y a une raison.
C'est quoi la raison?
Je sais pas, c'est comme ça, je pense qu'on va naturellement... Je sais pas, c'est pas, c'est comme ça.
Est-ce que vous faisiez de la musique quand vous étiez enfant?
J'en écoutais, mais non.
D'accord.
Un petit peu de guitare. Voilà.
Et là, vous êtes mis au piano. Je me suis mis au piano. Et
alors? Oui, tout à fait. C'est très ingrat. C'est difficile. Il faut tout réapprendre. Mais c'est passionnant parce qu'on peut vraiment se plonger dedans et passer du temps.
Voilà. Et on m'a dit, quand on a su que veniez, on m'a dit, pose-lui la question, il déteste Chopin.
Non, c'est un peu exagéré, mais vu le métier que je fais, je caricature toujours dans un sens ou un autre. Non, il y a des trucs... ce que j'aime chez Chopin, c'est quand il est léger, c'est les valses. Je pense que ce que je préfère chez lui, c'est les valses. Tout le reste, ça me saoule assez vite. Je dois avouer que ses études, ses polonaises... Enfin, il y a deux, trois polonaises et peut-être les balades. À un moment, j'étais très... Les seuls trucs que je supportais, c'était les balades. La première, notamment. Et... Oh, merde. Franchement, je le dis souvent, mais je suis passé de Chopin à Liszt. Liszt, au début, je trouvais ça très superficiel et juste explosif et fait de la pyrotechnie au piano et je trouvais ça pas profond. Et petit à petit, je me suis rendu compte que des deux, le moins profond pour moi, c'était Chopin, qui est très mièvre, sentimental, et toujours à promener ses petits doigts devant des comtesses. Alors à un moment, il a fait l'impression de s'exciter un peu. Alors ça devient un peu viril et puis après ça retombe dans un truc un peu mou. Puis il y a cette espèce de clair obscur polonais, espèce de sous Schubert assez insupportable. En fait, en y repensant, voilà.
Quelle analyse, voilà. Quel enchaînement, quelle entrée en matière. Pardon. Bonjour Laure d'Autriche. Non, au contraire, bonheur. Aujourd'hui, vous nous parlez du pianiste classique Alexandre Tarot. Mais là, il sort de sa zone de confort, comme on dit, Il interprète des musiques de films dans un disque qui vient de paraître, ça s'appelle Cinéma.
Et voilà, pas ici de concerto de Chopin ou de Rachmaninoff. Il a troqué ces concertos-là pour la musique de film. Alors, Alexandre Tarot, il passe vraiment sa vie à voyager. Hein. C'est l'artiste qui va de salle de concert en salle de concert. Et il dit qu'il était un enfant paresseux. Et en rentrant du conservatoire, quand il était enfant, il s'amusait à improviser sur des musiques de films de John Williams, de Vladimir Kosma, de Michel Legrand. Alors, il fallait surtout pas parler de ça au conservatoire. Ah non, la musique de film, c'était pas assez sérieux.
Ah non, on se passe le nez dans les conservatoires.
C'est un peu changé quand même aujourd'hui. Ouais, exactement.
Ah ouais, je fais partie de cette école. Hein. Pardon, mais.
Non, mais
c'est pour vous mettre à l'aise.
Hein. Il a quitté le studio.
Non, mais pour le coup, les compositeurs qui sont enregistrés dans ce disque sont de vrais compositeurs, pour la plupart classiques à la base. Et la structure de leurs œuvres est parfois comme des œuvres classiques. Alors, Alexandre Tarot a fait des arrangements lui-même pour ce disque. L'arrangement, c'est toute une science. Il faut rester dans l'esprit du compositeur, modifier, mais pas trop, rester fidèle à la musique d'origine que le public a en tête et faire sonner au piano une musique qui n'est pas toujours bien écrite pour cet instrument, mais plutôt pour l'orchestre. Voilà un petit extrait pour piano. Le film Un été 42, sorti en 71, musique de Michel Legrand. Alors aujourd'hui, souvent, la musique arrive en tout dernier, quand le film est terminé. On met des violons, vous savez, quand il y a un baiser, un rythme effréné au moment d'une course-poursuite, c'est pas très original. Mais il y a des compositeurs qui ont été très liés aux réalisateurs. Par exemple, Claude Lelouch demandait à Francis Lai, avant le premier tour de Manivelle, d'écrire la musique, avant que le film soit tourné. Et puis Lelouch écoutait dans son Walkman à cassette la musique pendant le tournage. C'est sans doute aussi parfois la musique qui le guidait aussi dans le jeu des acteurs. Il y a aussi dans ce disque des pièces de John Williams, en particulier la bande sonore du film E.T. de Steven Spielberg. Alexandre Tarot a eu l'autorisation d'enregistrer cette musique de John Williams.
On doit demander l'autorisation au compositeur. Et d'ailleurs, John Williams m'a autorisé à jouer E.T. pour le disque, mais pas pour la tournée, parce que c'est un orchestre un peu plus réduit et qui ne veut pas changer son arrangement. Je lui ai demandé cette autorisation parce que E.T. c'est un film fabuleux. J'étais vraiment un jeune adolescent et j'essayais de reproduire, à l'époque les partitions n'existaient pas, de reproduire au clavier cette musique incroyable.
Là, on entend quelle version ?
E.T., la version d'orchestre, avec le piano. Est-ce que vous entendez derrière comme une petite pluie qui tombe ?
Oui.
Voilà, Alexandre Tarot au piano avec un orchestre italien de Santa Cecilia qui est ici aussi dans le disque. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a une part parfois d'improvisation dans certaines musiques de films ? Il y a 100 ans, dans les films muets, la musique était là pour couvrir le bruit du projecteur. Un musicien improvisait généralement au piano au fur et à mesure du film. Et puis, chez Michel Legrand en particulier, il y a beaucoup d'improvisation. Michel Legrand, la musique des Parapluies de Cherbourg de l'été 42 qu'on a entendu. Michel Legrand, excellent improvisateur, qui sur certaines de ses partitions écrivait la partie d'orchestre, des violons, des flûtes, mais pas la partie de piano. Il y avait au milieu de la partition une ligne blanche.
Incroyable.
Michel Legrand me disait, vous savez Alexandre, je suis un robinet à musique, j'ouvre le robinet et ça sort tout seul. Voilà une forme de génie. Même si la partition a été écrite, la mélodie, on la connaissait, on l'attendait, mais il brodait à l'infini, il rajoutait des gammes, des arpèges, des harmonies subtiles. Et donc je voulais absolument retrouver cet esprit d'improvisation.
Et dans certains cas, la musique sert aussi à identifier un personnage dans le film. C'est ce qu'on appelle le leitmotiv, inventé par Wagner dans ses opéras, hein, pour associer un thème musical, une mélodie à un personnage. La mélodie revient quand le personnage revient. Et on a ça en particulier dans le troisième épisode de Star Wars où Skywalker se transforme en Dark Vador. John Williams mélange les thèmes de façon subtile. Voilà, ça sert aussi à ça, la musique. Alors Alexandre Tarot, dans cet album, joue toutes ses musiques avec l'apparence du naturel. Est-ce que pour finir, je peux diffuser la musique de mon film préféré, Cinéma Paradiso ?
Vous me voyez répondre non à cette question. Allons-y.
Thank you. Voilà, Alexandre Tarot jouera ses musiques de film en concert la semaine prochaine, le 30 novembre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, le 6 décembre à l'Opéra de Rouen. Et puis il y a ce disque Cinéma qui vient de paraître, édité par le label Erato. On entend le piano d'Alexandre Tarot accompagné d'un orchestre et pour aussi pour telle ou telle musique de Vanessa Paradis, de Camélia Jordana par exemple.
Merci beaucoup Lord Autriche. Michel Legrand qui se décrit comme un robinet à la musique. Gaspard Proust, vous avez fait une drôle de tête.
Ah non, mais je trouve ça formidable. Il est extraordinaire, Michel. Moi, j'aime beaucoup. Hein, je sais pas. Et j'ai envie cette confiance. Et en plus, il a raison. C'est certainement vrai. Mais quand on a cette confiance en soi dans un art, je trouve que c'est ouais, c'est extraordinaire. J'envie énormément.
Le génie.
De pouvoir dire une phrase pareille avec autant d'autorité et de vérité.
Et sans faire ricaner ensuite quand on réentend. Merci beaucoup Lord Autriche.
À bientôt.
On marque une courte pause. Gaspard Proust reste avec nous. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Gaspard Proust, il est à l'affiche de la pièce Demain, la revanche. Pièce écrite par Sébastien Thierry. C'est une pièce contemporaine écrite. Il pensait à vous en l'écrivant. C'est au Théâtre Antoine. La pièce vire au règlement de compte familial. Je ne vais pas raconter les détails. Mais c'est aussi une réflexion sur la transmission, notamment sur la transmission par nos parents. Et c'est assez notable pour être signalé. Gaspard Proust, vous êtes l'un des artistes les plus secrets quand il s'agit de parler de son enfance, de ses parents.
J'ai beaucoup parlé, moi, cette année, franchement.
C'est vrai.
Le nombre d'interviews, moi, je ne m'en remets pas. Enfin, bref, mais posez quand même les questions.
Qu'est-ce que vous appelez beaucoup parler? On sait juste que vous venez.
Ils ont fait une série dans Le Parisien, je sais pas, c'était très, très. Voilà. Enfin, bref. Ok.
Non, ma question, c'était en quoi ce texte a-t-il résonné en vous? En quoi vous êtes dit, pour reprendre les termes de Sébastien Thierry, que vous êtes ce fils insondable?
Il y a un petit côté défouloir dans la pièce sur beaucoup, beaucoup de mauvaise foi dans ce qu'on peut reprocher à ses parents. Est-ce qu'ils ont été à l'auteur? Ils sont assez occupés de vous? Ils vous orientaient dans le bon secteur? Et si j'avais fait autre chose? Et si machin? Et c'était ce rapport-là. C'était de faire un caprice d'ado à l'âge adulte. Voilà.
Et est-ce que c'était votre cas? Est-ce que ça ressemble, cette situation qui est dans la pièce, ressemble à votre situation personnelle?
Non, peut-être pas, parce qu'en fait, j'étais un garçon très très sage et j'ai mis du tard à décoller. En fait, la coupure s'est faite très nette, c'est quand j'ai commencé à faire les études et je suis parti. Mais non, j'ai pas été un enfant rebelle à la maison. Non. Donc peut-être que ça permet de vider cette partie-là, de s'amuser avec ça, disons plus.
Et à part les cours de musique, de piano ou de violon, on vous a rien à reprocher à vos parents?
Mais c'est vrai que j'ai à reprocher, effectivement, oui, que ils auraient dû me mettre au piano ou au violon à 4 ans. Moi, j'aurais adoré qu'on pète le cul avec ça, et qu'elle dise, si, il faut que tu y ailles, et les gars, mais moi, quand je vois les pianistes aujourd'hui, ils arrivent, ils déroulent le truc, ils savent tout, mais... Ah oui, ça, je leur en veux énormément. Le piano, c'est un truc... Donc les gamins, là, qui sont à l'école, qui se plaignent, parce qu'ils continuent à travailler, que voilà... Ils ont beaucoup de chance.
Voilà. C'est Jean-Luc Moreau qui joue votre père. Mm-hmm. J'en parle parce que ça devait être Daniel Rousseau. Mm-hmm. Il avait fait un vol plané pendant les répétitions, c'est bien ça?
Oui, il s'est blessé.
Voilà. Et il a été remplacé par Jean Barnet, qui lui-même a dû être remplacé. Je me suis dit, mais c'est un rôle maudit, le rôle de père de Gaspard Proust.
C'est vrai qu'à un moment, on a commencé à se regarder, à se poser des questions. On s'est dit, mais est-ce qu'il y aura un jour une première de ce spectacle? Et puis finalement, en s'acharnant un peu, ça s'est fait. Et puis là, ça roule, je touche du bois, ça a l'air d'aller. Voilà.
Vous n'écoutez que de la musique classique?
Non, j'écoute de tout. Enfin, j'écoute de tout. Non, je veux dire, je j'écoute pas du rap. C'est vrai que ça, c'est pas beaucoup, enfin, voire pas du tout. À part des vieux trucs des années 80, parfois. Mais non, oui, c'est beaucoup de musique classique. Oui, musique classique, puis du rock, de la pop.
L'enchaînement est tout trouvé. On va parler musique avec Stéphanie Loire. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Gaspard Proust, il est sur la scène du Théâtre Antoine avec la pièce Demain, la revanche. Mais là, on parle de musique, on parle pas de musique classique, on parle pas de musique de film. On parle avec Stéphanie Loire.
Bonjour.
Vous nous
à
présentez.
Tous.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Gaspard Proust.
Vous commencez
Stéphanie Loire.
Par nous présenter un duo blues-rock composé de deux sœurs. Ouais. Ça s'appelle Larkin Poe, c'est pas leur vrai nom. Larkin Poe, c'est le nom du groupe.
Le nom du groupe, exactement. Elle s'appelle Rebecca et Megan Lovell. Et elle forme donc ce groupe Larkin Poe, un nom de groupe choisi en hommage à l'un de leurs ascendants, parent du grand poète et romancier Edgar Allan Poe. Les sœurs ont choisi d'enregistrer leur 6e album studio intitulé Blood Harmony, chez elles, sur les terres natales du blues. Philippe, à Nashville, évidemment. Megan est au chant à la lap steel. Vous savez ce que c'est qu'une lap steel?
Pas du tout. Oui, c'est le machin, là.
Voilà, merci. Très bonne définition.
C'est quoi le machin?
Celle qui apparaît dans Wikipédia, le machin.
C'est le truc qui est là et puis on gratte.
Voilà, le machin.
Ça fait des bruits. Quoi.
En fait, c'est une formidable définition de Gaspard Proust. Mais merci.
Si vous avez d'autres, n'hésitez pas à me demander.
C'est un genre de guitare électrique avec une caisse de résonance. Ce qui est en gros le machin avec lequel on fait des trucs.
Ah bah c'est voilà. Exactement ce que j'ai dit.
Et Rebecca est à la guitare et au clavier. Écoutez comme ça sonne. Ouais, elles sont pas là pour faire des tartes aux pommes. Hein.
Ouais. On Gaspard entend bien Proust. La nappe style. Hein.
Oui, en effet.
Avec beaucoup de caramel. Mais qui colle, hein.
Non, ça vous plaît pas, je voyais les lever les
yeux. Ah super, j'adore.
Ah, c'est ironique ou pas?
Non.
Je ne sais pas.
Ça c'est ironique.
Je ne sais pas comment le prendre. En tout cas, moi je trouve que ça cogne fort. Le titre de l'album s'enchaîne sans ventre mou sur cet album. On y va, on continue, on se promène entre les racines rock, sudistes et blues, soul, très modernes, avec des morceaux comme Summertime Sunset par exemple. Gaspard Proust.
Bah, le problème avec le blues, c'est qu'en fait, c'est toujours la même chanson étirée sur 50 milliards de morceaux. Quoi. Bah, c'est toujours le même truc.
Chopin et le blues, tout le monde en a pris pour son grade. J'ai d'autres choses en tiroir, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous intéresser.
Bien sûr, bien sûr.
En tous les cas, Larkin Poe, c'est un groupe que moi j'aime beaucoup, qui a un public, qui sera en tournée française en 2023. Je vous donne quelques dates. Le 15 octobre à l'Olympia, le 27 octobre au Transborder.
Attendez, doucement. 27 octobre, non, je ne dois pas rater ça.
Le 6 novembre au Bikini à Toulouse. Vous serez
ah,
là.
Bikini à Toulouse, bien sûr. Ben oui.
Super. Et puis, autre découverte musique, autre voix féminine.
Ouais, celle de la chanteuse et guitariste malienne Fatoumata Diawara, qui reforme un tandem avec la tête pensante du groupe Blur, Damon Albarn, sur son morceau Ensera, premier extrait d'un nouvel album dont on ne connaît pas encore le nom à ce jour. Un titre porté par des synthés pop et des rythmes afrobeat, le dada de Philippe Vandel. La voix de la chanteuse se mêle aux résonances mystiques de Damon Albarn. Écoutez. Et je sens qu'une fois de plus, on a touché Gaspard Proust en plein cœur, en plein cœur de sa sensibilité musicale.
Il passe quand et où? Je
elle,
veux l'heure, la
elle
danse.
Elle passe quand? Fatoumata Diawara.
Ah, parce qu'il ne va pas se déplacer, Damon Albarn.
Je ne sais pas.
Bah, je ne sais pas,
elle
il faut un duo, c'est un minimum.
Oui, c'est vrai. Bon, peut-être qu'il sera là, mais en tous les cas, elle sera au Festival Africolor le mercredi 30 novembre et le samedi 3 décembre au prochain, sans Damon Albarn, me semble-t-il.
Et Fatoumata Diawara, elle était déjà sur l'album L'Anomalie avec M. Charlotte Rampling publie un album intitulé De l'amour, mais quelle drôle d'idée.
Mais
c'est
enfin,
tout le titre.
Oui, de l'amour, mais quelle drôle d'idée. L'amour. Je vous avais présenté le premier single il y a quelques semaines ici, mais ça y est, l'album est sorti avec la voix de Charlotte Rampling. Cette pointe d'accent britannique, à la fois distinguée et sensuelle, comme vous, Gaspard Proust.
Bien sûr.
Elle signe un album classieux dans lequel elle parle plus qu'elle ne chante. Il est question de rapports amoureux. On se laisse embarquer volontiers dans cette promenade. Ouais, allez-y, formulez quelque
chose. Elle n'a pas réussi à casser le plafond de verre de Jane Birkin, quoi. C'était un truc encore plus haut, et là.
Mais vous,
je l'ai pas encore
vous
entendu,
avez
mais ça, je suis vraiment mauvais esprit ce matin.
Avant même d'avoir écouté.
Mais ça, je fais souvent ça. C'est je critique fou. Des trucs que j'ai jamais vus. Hein,
on écoute Via Condotti, qu'elle signe en duo avec Léonard Lasserie, qui réalise ce magnifique disque.
Léonard Lasserie?
Oui.
Putain, j'adore.
Ah, enfin.
C'est sur la Via Condotti, un petit reste de nuit. Le jour lèche les vitrines, le matin sort de son spleen. Quelques nuages gothiques, tes lèvres sont de rubis. Ta peau une insomnie qui vaut toutes les musiques.
Si tu m'accordais l'inimaginable de tous mes souhaits. Tu es l'indispensable,
l'indispensable.
Ta désinvolture souvent me déchire. C'est une vraie torture, ta silhouette, ton rire.
Tu es si loin devant.
Et c'est un plaisir immense de constater combien Gaspard Proust est sensible à cette musique.
Vous avez cette oreille musicale, ce sens esthétique si sûr.
Donc encore
j'aurais tout raté.
Encore une fois, non, pas du tout. Mais de toute façon, non, je ne cherche pas à vous plaire.
Bah non, bah c'est bien. L'important, c'est qu'elle, elle se nourrisse. Et que, enfin, je veux dire qu'elle chante et qu'elle y trouve du bonheur et que des gens en face y trouvent du bonheur. L'échange, tout ça.
D'ailleurs,
dans
elle parle plus qu'elle ne
différence.
Chante.
Pardon ?
Elle parle plus qu'elle ne chante, d'ailleurs.
Bah, au moins, elle est un peu lucide, oui.
Quelle délicatesse.
Enfin, une découverte punk pour conclure.
Ah, peut-être que le punk, tiens, vous êtes un punk dans
le
fond.
Ah, ouais, j'aime bien les. Ah non, mais sur le tard, j'aime bien les trucs, les Dead Kennedys, tout ça.
Ah, c'est tellement bien.
Là, c'est du nouveau punk. C'est une découverte, c'est un. Les quoi ? Les Clash ?
Les Boys, non. Oui, bon, les Clash, ça c'est bien.
Ouais, vous reviendrez quand vous aurez
boys,
une proposition.
Les Dead Boys.
Et là, c'est une découverte punk, parce que je sens que certains sont en train de s'ennuyer profondément dans le studio ou s'endormir sur le radiateur au fond de la classe. Pour digérer vos frosties matinales, une formation punk lilloise qui s'appelle Ravage Club et qui, à mon sens, porte très bien son nom. Ils sortent leur tout premier EP, c'est un petit album, ce sera le 2 décembre prochain. Écoutez leur titre, c'est l'enfer.
Ciel poète, nul le laisse, n'arrête. Fou allié dans sa quête, trop de faux alliés aliènent nos êtres. J'avance avec l'averse, sans peine ni mal.
C'est hyper bien, Ravage Club. Voilà, comme ça, tout le monde est réveillé.
Ça réveille, hein.
Ça réveille. Non. Et ils seront en concert dans toute la France, notamment au Splendid, en première partie de Deportivo, le 8 décembre. Vous avez noté, Gaspard ?
Bien sûr.
Okay. Vous allez y aller ?
Oui. Je ferai tous.
Tout ce qu'on demande.
Tout ce que vous m'avez présenté ce matin, j'irai.
Je n'en doute
avec
pas.
Une pancarte 10.
Comme à l'école des fans, tout le monde a gagné. Stéphanie, on vous retrouve tous les samedis et les dimanches de 16 à 17h dans l'émission Musique sur Europe 1. Mais ce week-end sera seulement dimanche parce que samedi, il y a France-Danemark.
Je me fais amputer d'une émission.
À 17h, ouais. Et c'est à suivre sur Europe 1, la radio officielle de la Coupe du Monde. Dans un instant, on reste avec Gaspard Proust. C'est la dernière ligne droite de l'émission. Salut Stéphanie, à la semaine prochaine.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Avec Gaspard Proust, on s'est remis du punk. Demain, la revanche est sur la scène du Théâtre Antoine. C'est avec Jean-Luc Moreau et la comédienne qui s'appelle Brigitte Catillon, pièce contemporaine de Sébastien Thierry. Quel effet ça fait d'être plusieurs sur scène pour vous ?
Quand c'est avec des gens cool, c'est bien. Et c'est le cas.
Parce que vous êtes une des personnes les plus solitaires qui soient.
Solitaire, non. Je suis relativement timide, je mets du temps à apprivoiser les gens et être avec eux. Et c'est vrai que là, j'ai eu beaucoup de chance et ça se passe très bien. Autant d'ailleurs avec eux qu'en coulisses. Mais en fait, les gens ont pas mal de préjugés. C'est marrant ce qu'il y a. Les comédiens, ils sont là, ils me disent « Oui, tu sais, beaucoup de gens de mon entourage, ils me disent « Mais alors, avec Gaspard Proust, c'est compliqué. » Bah, les évidemment. Gens partent du principe que ça va être compliqué, que je vais être et je vais être chiant et tout. Et en fait,
ils sont
toujours surpris. « Ah, finalement, que c'est relativement léger, c'est sympa. » Non, je suis très heureux de les retrouver tous les soirs.
Vous n'avez pas du tout une réputation de chiant. Vous avez une réputation de taiseux et d'agoraphobe, ce qui est différent.
Bah, on a quand même le droit encore. Hein.
Oui, je ne vous le reproche pas. Mais je vous demande comment ça fait d'être avec du monde.
C'est...
Beck Bédé racontait ça. Vous avez tourné deux films avec Frédéric Beck Bédé. Il raconte que pour son deuxième film, vous étiez très très sympathique, mais vous aimiez vous isoler du reste de l'équipe. Vous alliez pas aux fêtes, par exemple, vous étiez tout seul dans votre coin.
Oui, alors je suis pas très fêtard, je dois avouer. Et en fait, sur un plateau de cinéma, il y a déjà beaucoup de monde. Et moi, je me fais vite. J'ai besoin. Moi, je me recharge quand je suis seul. Donc voilà, c'est tout. Donc, en fait, c'est un équilibre, quoi. Donc, si je suis tout le temps avec ça m'épuise.
Je peux comprendre ça. Vous affirmiez il y a quelques temps que vous aviez l'intention d'arrêter totalement le one-man show. Est-ce que vous êtes toujours dans cette optique ?
Il faut que je retrouve le goût d'avoir envie de dire quelque chose. Je fais un petit peu ça sur Europe 1 le matin, mais c'est encore une recherche, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai une petite pression par rapport à un spectacle que je trouve relativement abouti. Et forcément, je ne veux pas... Je veux faire quelque chose qui soit au moins de cette qualité-là. Si j'en fais un troisième, je n'ai pas envie de faire pour faire. Donc c'est forcément un processus qui n'est pas toujours agréable.
Le cahier des charges sur Europe 1, vous êtes tous les mercredis à 8h37, c'est lequel ? Qu'est-ce que vous êtes demandé ? Qu'est-ce que vous êtes imposé ?
C'est l'espèce de cadeau le plus... ça peut être un cadeau empoisonné. Vas-y, carte blanche, fais ce qui te fait plaisir. Et donc, c'est ce que je fais pour le moment.
Et qu'est-ce que vous êtes fixé comme règle ?
Je ne me suis pas fixé de règle. De pas d'être... de me dire oui, ok, ça va, ça passe. C'est pas mal, c'est présentable.
Vous avez notamment dressé le portrait du communiste qui séduit la droite, c'est Fabien Roussel. Mmh. On va entendre un extrait, je précise que vous êtes en studio donc avec Dimitri Pavlenko, normal, mais aussi avec Fabien Roussel, qui est à côté de vous, qui est en face de vous, et qui ne peut pas, il faut le reconnaître, qui ne peut pas s'empêcher de rire. Portrait Gaspard Proust.
T'as un bolchevique pur sucre qui débarque devant un mec de droite et il lui dit « Ah, oh, j'aime la viande, le vin rouge et le travail. » Et le gars en face, il a vu Jésus. « Ah, oh, c'est pas vrai. Ah, oh, c'est incroyable. Ah, oh, qu'est-ce qu'il est bien, ce gars-là. » Mais bon, Roussel, c'est vrai que c'est le communiste à l'ancienne, tu vois. C'est l'école industrie lourde, tu vois. Lui, pour le déconstruire, faut y aller au four sidérurgique. C'est comme l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. Roussel, pour en faire un baltring woke, faut aller le fondre à Florange, tu vois. Mais au fond... Tu sens qu'il est malheureux à gauche, ce gars-là.
Ah bon, vous pensez qu'il est pas à sa place?
Bah, c'est évident qu'il se fait chier là où il est. Attends, imagine, il fait un déj avec Sandrine Rousseau. Enfin, une fois qu'ils se sont mis d'accord sur le programme, ouais, taxer les riches, la planète mes couilles, là. Tu vois, il a envie de partager un truc un peu vrai. Il a envie de lui dire, putain, je suis allé voir une corrida, le torero, il est sorti avec deux oreilles, la queue du taureau, tu vois. L'autre en face, il rend son 4 heures, tu vois. Et là, tu vois, et puis un tofu mal digéré, tu sais, ça chlingue, tu vois.
Bon moment, vous aimez bien vous réentendre?
Non.
Mais reconnaissez que ça a fonctionné.
Oui, oui, ça a fonctionné, oui. Mais pour moi, une fois que c'est fait, passé.
Ah, d'accord. J'aurais jamais posé cette question sinon, mais je vous apprends rien. On est en plein centenaire du décès de Marcel Proust, qui est mort le 10 novembre 1922. Vous n'êtes pas de sa famille,
non.
C'est un pseudonyme. Pourquoi je vous pose la question? Parce que vous avez des velléités d'écriture?
Oui.
Comment vous allez faire si un jour vous voulez écrire un roman?
Compliqué. Peut-être que j'ai fait exprès de m'autocastrer en mettant Proust pour qu'on se dise, de toute façon, ce ne sera jamais au niveau, ce qui est vrai.
Ouais.
Donc, je ne sais pas, c'est une espèce d'arlésienne qui revient chez moi tous les trois jours. C'est un peu comme le piano. J'ai mis du temps à mettre au piano parce que je me suis dit, bon, à mon âge, on ne sera jamais Glenn Gould ou Rudolf Serkin. Et à l'écriture, comme je ne serai jamais Chateaubriand ou machin, bah je décale, vous voyez.
Bec Bédé disait de vous, quand on voit son one-man show, la différence avec du stand-up normal, c'est la qualité du style. Il parle de vous, ce ne sont pas des vannes, ce sont des aphorismes à la Cioran. Quand on assiste à un spectacle de Gaspard, c'est presque comme une lecture d'écrivain. Vous écrivez en ce moment?
Bah, vu le JDD européen, oui, de fait, j'écris tous les jours. Oui.
Voilà, mais vous savez ce que vous allez écrire pour votre prochaine chronique dans le JDD? Vous y prenez combien de temps à l'avance?
Non, JDD, je sais pas encore.
Il faut la rendre quand et à quelle heure?
Samedi matin.
Allez.
Et je sais pas, je vais peut-être partir, je sais pas, sur la corrida ou sur les ceintures de sécurité dans les voitures. C'est passionnant, hein.
J'en crois pas un mot, mais c'est pas...
si, je vous assure. Ouais. Sur le bip, je trouve ça insupportable que dans ma voiture, on me force à m'attacher.
Ah, et que si vous la mettez pas, ça fait
bip. Je trouve que c'est une intrusion dans mon espace. Oui.
Vous avez raison, c'est un bon thème, Julia Vignali est d'accord avec
vous. Ah mais c'est insupportable, à l'arrière des taxis, là, le mec avance pas autrement. Il faut attacher sa ceinture, c'est obligatoire.
Voilà, c'est pas toutes les voitures ont ça, mais dans les taxis en arrière...
Les japonaises, souvent.
D'accord. Voilà. En effet. Alors, les marques sont les suivantes.
On va s'arrêter sur ces considérations. On voit par là l'humour totalement décalé de Gaspard Proust qu'on retrouve dans cette
pièce.
Demain, la revanche au Théâtre Antoine. Merci Gaspard Proust d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci à tous, nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec Bernard de la Villardière et le réalisateur Vincent Prado pour un nouveau numéro d'enquête exclusive. On parle des fortunes colossales des oligarques russes. Et puis l'auteur et dessinateur Riyad Satouf, vous connaissez la série L'Arabe du Futur. C'est déjà le numéro 6 de cette série culte. Il sera avec nous juste après le flash. Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous Mélanie, le programme du jour.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Ça va vous plaire aujourd'hui, hein. Ah. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vouloir obtenir quelque chose de quelqu'un. Vous savez par exemple, je ne sais pas, que votre voisin garde votre chat, votre femme arrête de fumer, que votre enfant fasse la vaisselle par exemple.
Oui.
Mais je ne sais pas, est-ce que vous êtes doué pour persuader les gens, pour convaincre, pour manipuler, parce que ce sera
tout.
Notre sujet aujourd'hui.
Pas du tout.
Julia, vous savez, vous, un peu ça?
Moi, j'adore faire ça. De la manipulation, mais très gentille, très bienveillante. L'autre ne se rend pas compte de ce que vous êtes en train de lui demander. Et puis, finalement, il vous
rend service. Mais l'objectif est ça, hein. C'est pas pour faire des choses méchantes. Hein,
l'émission s'appelle Bien fait pour vous. Hein. On est gentil.
Il y avait un livre extraordinaire aux presses universitaires de Grenoble qui s'appelait Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens.
Vous savez quoi? On a invité l'auteur.
C'est pas vrai.
Ouais.
Dingue. Vous savez quoi? À nulle part ailleurs, j'ai fait un sujet là-dessus. C'était dans l'émission
Demain. Parce que le livre, il a 30 ans, je crois.
C'était dans l'émission Demain, présentée par Michel Denisot. Et j'ai toujours ce livre. Livre extraordinaire. Restez, écoutez l'émission de Mélanie et de Julia. Nous, on se retrouve demain à 9h. Salut.